Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Jean-Claude Mabéa.
Bonjour à tous, il est 12h à Yamoussoukro, à Ferkessédougou et en temps universel. Vous suivez Radio de la Paix. Tout de suite, les titres à la une de cette édition. Vie des institutions, le nouveau président du Sénat sera connu ce jeudi au terme de l'élection qui a lieu en ce moment même à Yamoussoukro. Nous retrouverons sur place Emilia, notre correspondant régional, en début de ce journal pour nous faire le point de ce scrutin. Sport, football, Cannes 2023, les 24 nations connaîtront leurs adversaires ce soir à 19h au cours du tirage au sort qui aura lieu au parc des expositions d'Abidjan. Comment couvrir de façon responsable les conflits armés et relever les défis humanitaires? Tels sont les enjeux de l'atelier média organisé récemment par le CICR à Ferkessédougou. Hors de Côte d'Ivoire, le nombre de morts à Gaza s'élève à au moins 1354 selon le ministère de la Santé du Hamas. Et puis, pour finir, l'invité de la rédaction sera aujourd'hui Dr Landry Amoussou, enseignant en droit administratif à l'université Pelleforogon Koulibaly de Korogo. Il sera interrogé par Jean-Claude Comé. Il expliquera la décision du Conseil d'État de réorganiser les élections dans 10 localités tout en prévoyant l'installation de délégations spéciales en attendant. Bienvenue à tous. On prend la direction de la capitale politique ivoirienne qui abrite ce jeudi l'élection du président de la Chambre haute du Parlement ivoirien lors donc de l'ouverture de la deuxième législature du Sénat. En ligne de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, Emiliao.
Présidée par Ambla-Marie-Elisabeth Viviane, doyenne d'âge des sénateurs présents, la séance inaugurale devant permettre l'élection du nouveau président de la Chambre et l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 a débuté par un appel nominal de l'ensemble des sénateurs de la deuxième législature. Ainsi, 97 sénateurs sur 97 que compte cette Chambre haute du Parlement, en attendant, les deux élus de la région du Guémont, où l'élection n'a pu se tenir, ont répondu présents. Dans son mot introductif, Zunion Kipré Ambla Marie-Elisabeth, après l'adoption par acclamation de l'ordre du jour, expliquait à l'auditoire les conditions pour candidater au poste de président de l'institution ainsi que le mode opératoire de cette élection. S'en est ensuite suivi la réception et la proclamation des résultats des candidatures et c'est sans surprise aucune que l'on a enregistré la candidature unique de l'ex-ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Kandia Kamisoko Camara. Et elle devrait être élue à la tête de la deuxième chambre du Parlement ivoirien, et ce, en remplacement du président sortant, Aoussou Kouadio Jeannot, pour cette deuxième législature. Pour l'heure, les travaux se poursuivent donc ici à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, et rappelons à tout fait utile qu'en attendant les élections de deux sénateurs dans la région du Guémont, la Chambre haute du Parlement enregistre pour cette deuxième législature l'entrée de 97 sénateurs, dont 46 nouveaux et 51 ayant été membres de la législature précédente, soit 24 femmes et 73 hommes. Émile Yao, depuis la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Merci à vous, Émile Yao. On vous retrouvera dans l'édition de 18h pour plus de détails sur cet événement. Retour à Abidjan pour parler de la deuxième réunion du groupe de travail bilatéral chargé de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse, notamment en matière de sécurité et de migration. Un important lot de matériel composé de plusieurs motos et d'un véhicule équipé pour la surveillance des frontières ont été offerts par la Suisse. Les détails avec vous, Mata Touré.
Cette réunion entre la Confédération helvétique et la Côte d'Ivoire a fait suite à celle du jeudi 25 novembre 2021 tenue à Berne. Trois accords en matière de migration destinés à renforcer leur coopération dans ce domaine ont été signés, surtout dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Vagondo Diomandé est le ministre de l'Intérieur ivoirien.
Le renforcement de la coopération avec la Suisse doit être salué. Ce renforcement doit être aussi encouragé, surtout dans le contexte actuel, qui est malheureusement caractérisé par une crise migratoire sans précédent, et où la Côte d'Ivoire est désignée comme le deuxième pays pourvoyeur de migrants en situation irrégulière, mais malheureusement sur la base de seules déclarations de ces migrants.
Vincenzo Macioli, directeur de la coopération internationale auprès du secrétariat d'État de la migration suisse, situe ici le contexte de cet accord.
Aujourd'hui, Donc nous célébrons la remise de matériel essentiel qui renforcera encore davantage les capacités de gestion de frontières en Côte d'Ivoire. Et en plus de l'équipement, le projet comprend également des formations et des échanges de bonnes pratiques.
A rappeler notamment que la Confédération Helvétique dispose de 40 entreprises implantées en Côte d'Ivoire et en est le premier partenaire commercial hors de l'Union européenne.
Organisé par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, en partenariat avec la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, un atelier média réunissant 20 journalistes de la zone nord du pays, dont des responsables de radio locale, des correspondants de la presse écrite et en ligne, s'est tenu à Ferkessédougou, dans la région du Tchologo, du 9 au 10 octobre dernier. Cet atelier a permis d'informer et de sensibiliser les journalistes sur les actions et les activités de la Croix-Rouge. Témoin pour Radio de la Paix, Marcel Bouni.
Ce séminaire, à l'attention des journalistes de la zone nord, a permis de mieux faire connaître la Croix-Rouge sur la base du module souligné par Rasmina Gueye, chargée de communication au Comité international de la Croix-Rouge.
Le premier module avait trait au mandat et à la mission de manière générale du Comité international de la Croix-Rouge. Ensuite, nous avons parlé de comment amener les médias à avoir une couverture responsable, on va dire, des conflits armés. De faire un mapping, une sorte de réseautage au niveau des journalistes et des correspondants de presse au niveau de la zone nord de Côte d'Ivoire.
Un renforcement des capacités et des attentes souhaitées par Diabaté Moussa, responsable communication à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire.
Nous ne sommes pas toujours compris, nos actions ne sont pas toujours sues. Donc nous voulons, au sortir de cet atelier, pourquoi pas établir un partenariat entre le mouvement Croix-Rouge dans son ensemble et puis justement ces différentes plateformes de journalistes qui ont pu prendre part à cet atelier-là.
Des journalistes qui réagissent au terme de l'atelier.
Kona, directeur de la radio Biancadi de Tengrela. J'ai au moins une idée du CSCR. C'est vraiment un soulagement que j'ai pu avoir ces informations-là. Puis je vais aller encore la partager avec les collègues qui sont restés au niveau de Tengrela.
Koumina Kouadio Bertin, directeur de la radio communale de Téini. Il nous invite en tant que professionnels des médias à copier sur eux, c'est-à-dire avoir un engagement d'impartialité, pouvoir traiter l'information de façon impartiale pour favoriser la paix et la cohésion sociale.
Pour également relever les défis humanitaires dans la région. De retour de Ferkessédougou, Marcel Boni-Korogo, Radio de la Paix.
À la faveur de la journée médiatique consacrée le lundi dernier à la 9e édition de la sécurité routière à Divo, les responsables locaux du transport routier ont joint leur voix à celle des agents des forces du ministère des Transports et des forces de défense et de sécurité pour rappeler aux usagers de la route les bonnes pratiques pour éviter des accidents de la route. Le point avec notre correspondant régional Abel César Cassin.
C'est le rond-point de la mairie qui a été choisi pour cette sensibilisation. Agents de la direction des transports de Divo, forces de défense et de sécurité étaient à pied d'œuvre. On a même vu l'adjoint au commandant de brigade de Divo, l'adjudant-chef Irieta Alain et son équipe distribuer à tour de bras des contraventions. L'explication se trouve dans les propos du chef de service transport terrestre et de la circulation à la direction des transports de Divo, Céry Antoine.
Bon, mais c'est la sensibilisation. Surtout les motos à deux roues et à trois roues, ce sont les usagers de ces engins-là qui causent le plus d'accidents. Dans le contrôle des documents, on voit que le plus souvent, ceux qui pilotent ces engins-là n'ont pas de permis de conduire. Donc, n'ont pas de notion du cours de la route.
Au bureau du Haut Conseil du patronat du transport routier de Divo, Soumaoro Kassoum, un ancien chauffeur n'en rend pas ses propos de miel.
Si tu n'as pas un casque, ta tête est cassée. On peut réparer les autres côtés, mais la tête là, c'est pas possible. Tu laisses des défunts derrière toi. À cause de quoi? Casque de 3 000, 25 000.
Le doyen Sylla Labassi a commencé à conduire avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voici ses conseils à la nouvelle génération de chauffeurs.
Et puis, il n'a qu'à aller doucement aussi, là. C'est ça, c'est pas bon. Il y a trop de morts. C'est pas notre chauffeur, ça. Divo ici, on va appeler. Il n'a pas de tout le côté. Divo ici, on va aller la convoquer. On va aller poser.
Cette phase de sensibilisation a été supervisée par le secrétaire général de préfecture, Gueye Kouakou Afoué Jeannette. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
De Divo donc, on met le cap sur Bengerville, où les services du ministère des Transports ont organisé le même jour une série d'actions de sensibilisation en faveur de la communauté éducative, notamment les écoliers, lycéens et collégiens de la dite commune. Cette opération de sensibilisation qui a porté sur la problématique du partage de la voix vise à sensibiliser la communauté éducative sur les règles et attitudes essentielles pour mieux se tenir sur la route. route. Sako Brahima, le directeur régional des transports d'Abidjan Sud, a expliqué au micro de Matatouré l'objectif visé par cette opération.
Et nous avons choisi expressement Gerville, donc à l'effet de venir aider les enfants à la traversée. Vous savez que historiquement, Gerville est une ville scolaire et il y a beaucoup d'élèves qui traversent les voies. Et donc on a décidé, donc, au niveau de la Semaine nationale de sécurité routière, de venir spécialement à Gerville et de participer donc à la traversée des élèves. En réalité, après, nous sommes en train de faire une opération terrain de traversée, mais il est prévu donc au lycée garçon de Bergerville d'aller entretenir donc les différents élèves et même les responsables, parce que tout le monde est usager de la route. Alors, nous avons commencé l'opération piétonne. Ça va consister à comment traverser la route. Qu'est-ce que c'est que la route? Comment traverser la route? Comment aborder la route? Et c'est d'autant plus important pour nous tous. Parce que quand tu sais comment aborder la traversée, je crois qu'il y aura moins de conflits. Surtout que la thématique de ce mois pour la Semaine nationale de sécurité routière, c'est la cohabitation. C'est la cohabitation des usagers sur la route. Hein. Et donc, quand chacun saura là où il doit être, vous voyez qu'il n'aura pas de conflit.
Nous écoutions à l'instant Sako Brahima, le directeur régional des transports d'Abidjan Sud. On reste à l'intérieur du pays pour nous rendre à San Pedro où la cérémonie d'installation du comité local d'organisation de la CAN 2023 a eu lieu le lundi 9 octobre 2023. Ce comité, qui est un organe déconcentré du COCAN, entendez le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, est un dispositif de proximité qui met à contribution les compétences locales. Des détails avec Kofi Benson, notre correspondant régional dans le Bas-Sassandra.
Avec pour mission le relais d'information, de sensibilisation et de mobilisation, d'exécution des décisions du COCAN, entendez le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce dispositif de proximité, c'est-à-dire le comité local d'organisation de la CAN 2023 de San Pedro, a été installé par le président du COCAN, François Amichia.
On ne peut pas tout faire à partir d'Abidjan. Il faudrait qu'il y ait des relais au niveau des villes hôtes, il y ait des structures de proximité. Il y a des instances qui permettent et l'information et la sensibilisation, mais surtout la mobilisation. Parce que nous avons reçu instruction de M. le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, que tous les matchs doivent se dérouler dans des stades pleins et avec une parfaite organisation, une parfaite sécurité, avec les mesures sanitaires et tout ce qu'il faut.
À la tête de ce comité local, le préfet de région, Ousmane Koulibaly. Pour lui, la contribution de tous permettra une CAN réussie.
Je suis persuadé et convaincu que grâce à nos efforts conjugués, toute l'équipe du COCAN investit ces jours avec l'ensemble des populations que ce rendez-vous du ballon rond sera donné et conféré à notre beau et grand pays, la Côte d'Ivoire, sa troisième étoile. Nous avons réussi l'organisation des Jeux de la Francophonie. À nouveau, nous donnerons à notre pays toute la splendeur qu'il a toujours jalousement gardée.
Bien qu'un rendez-vous footballistique, la CAN, c'est aussi une vitrine pour la Côte d'Ivoire. Il faut donc que les villes accueillant les pays hôtes présentent une fière allure. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Reste dans le ton de la CAN pour parler du tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroule bien entendu en Côte d'Ivoire. Et ce tirage au sort aura lieu ce jeudi 12 octobre 2023 au Parc des Expositions à Port-Boué à 19h, temps universel. En prélude à cet événement, l'Union nationale de la presse sportive ivoirienne a organisé le mardi 10 octobre à la Maison de la presse, au plateau, un atelier sur les rues du Mans pour la couverture efficiente d'un événement sportif majeur et le processus d'accréditation. Suivons le compte-rendu de Didier Blé.
À 3 mois de l'ouverture de la CAN, il était impérieux pour l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire de mettre tout le monde au même niveau, Cathy Touré Kodo, sa présidente.
Cette activité rentre déjà dans le cadre de notre programme. Lorsque nous arrivions à la tête de l'UNEPSI, on s'était dit que chaque année, nous allions organiser des formations et aussi des activités afin de pouvoir faire la promotion du journalisme de sport. Les journalistes de sport sont un maillon essentiel dans cette Coupe d'Afrique des Nations.
Il faut se faire accréditer, connaître ses droits et devoirs et bien se préparer pour la couverture d'un événement comme la CAN, les différents intervenants ont transmis ce qu'ils savaient. Emmanuel Kofi, journaliste sportif.
Votre travail ne se fait pas seulement les jours de match. Vous pouvez faire des avant-papiers. Si vous êtes bien accrédité, savoir le niveau d'accréditation. Tout faire également pour prendre connaissance des salles de conférence, les terrains d'entraînement, les positions commentateurs. Et sur place également, il est important de joindre des personnes qui peuvent vous aider à travailler, avoir des contacts.
Il faut être méticuleux, savoir anticiper. Magloire Diop, ancien président de l'UNEPSI.
Dès maintenant, nous devons avoir notre plan de travail pour dire à notre rédaction, voici ce que nous voulons faire pendant la CAN. Voici les rubriques.
Les 24 équipes qualifiées pour la CAN en Côte d'Ivoire connaîtront leurs adversaires du premier tour à l'issue du tirage au sort ce jeudi. Les émissaires de la CAF présents à cette rencontre ont indiqué que le processus d'accréditation sera ouvert juste quelques jours après le tirage, invitant les journalistes à s'inscrire massivement sur le canal média de l'instance africaine du football.
Nous venons à l'instant de l'apprendre. Kandia Camara, élu à la majorité absolue avec 91 voix sur 97, présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Elle est donc la nouvelle présidente du Sénat ivoirien. Un mot de l'actualité internationale. Le nombre de morts dans la bande de Gaza est passé à au moins 1354, a annoncé à l'AFP, le ministère de la Santé du Hamas, avec des dizaines de morts depuis ce jeudi matin à la suite d'un bombardement massif israélien de l'enclave. Au moins 1354 citoyens ont été martyrisés et 6049 ont subi diverses blessures, a déclaré le ministère, mettant à jour un précédent bilan d'environ 1200 morts annoncé ce jeudi à l'aube. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce jeudi à Tel Aviv en signe de solidarité avec Israël quelques jours après l'attaque sanglante lancée par le mouvement islamiste palestinien Hamas, selon un journaliste de l'AFP. L'UEFA a pour sa part annoncé ce jeudi que le match de qualification pour l'Euro 2024 entre le Kosovo et Israël, prévu dimanche, a été reporté en raison de conflits. Nous arrivons au dernier temps fort de ce journal, l'invité de la rédaction. Il s'agit aujourd'hui du docteur Landry Amoussou, enseignant en droit administratif à l'université Péléphoro-Gon Coulibaly de Korogo. Après l'invalidation par le Conseil d'État des élections municipales et régionales dans 10 localités, selon la loi, il sera donc procédé à l'installation des délégations spéciales qui auront à charge la gestion de ces entités décentralisées et cela jusqu'à l'élection de nouveaux maires et président du conseil régional. Docteur Landry Amoussou répond donc aux questions de Jean-Claude Comé.
Docteur Landry Amoussou, bonjour.
Bonjour.
Le Conseil d'État a été sollicité par divers candidats pour connaître des requêtes formulées après les élections municipales et régionales du 2 septembre dernier. Et le Conseil d'État a de manière globale invalidé les élections dans une dizaine de localités. Quelles sont les conséquences juridiques de cette décision du Conseil d'État?
Alors, le juge est dans son droit, il est le juge du contentieux électoral. À la lumière des informations qui lui ont été transmises et des dossiers, il a décidé d'invalider effectivement ces élections. La première conséquence, c'est le fait qu'il n'y a aucune autorité qui peut se targuer de représenter les populations dans ces localités. L'unique solution pour retrouver toute la légitimité du peuple, c'est de effectivement se représenter et reprendre toutes les élections.
En termes de conséquences juridiques, les maires sortants de ces localités, quel sera donc leur sort? Puisqu'il y a certains qui étaient des maires donc en exercice, qui étaient candidats à leur réélection et puis ces élections sont invalidées. Quelles sont les conséquences d'une telle décision du Conseil d'État?
Ils ne sont plus maires, ils ne peuvent plus se targuer de cette fonction. Ils ne peuvent plus signer des documents en tant que maire, ils ne peuvent plus représenter la collectivité en tant que maire. Donc ils sont dans cette petite période où il va falloir que le juge statue définitivement sur leurs conditions. Sinon pour le moment, ils ne sont plus maires, c'est la conséquence directe.
Alors selon la loi, donc pour l'organisation de ces nouvelles élections, la CEI a donc entre 3 mois et 12 mois au maxi pour pouvoir réorganiser des élections. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait de ces mairies-là où des élections sont invalidées?
Oui, alors c'est-à-dire il y a une solution qui existe depuis très longtemps qu'on a hérité de la colonisation, puisque c'était des éléments qui avaient déjà été traités. Même pendant une période normale, quand il y a une démission du maire de son conseil ou qu'il y a une carence de la mairie, l'administration prend ses responsabilités et met la mairie sous tutelle. Et en attendant que le contentieux soit vidé, tout naturellement, l'administration va désigner des agents qui vont aller effectivement évacuer les affaires courantes dans la mairie en attendant que les autorités légitimes reviennent effectivement occuper le poste.
On parle là de délégation spéciale.
Si oui, ça peut être une délégation spéciale pendant ce contentieux. Sinon, c'est une procédure que tout le monde connaît. Il y a la, en période normale, il y a la substitution d'office. Mais là, on va parler plutôt de délégation spéciale en attendant que les élections se passent et que les autorités qui ont été nommées, désignées pour évacuer les affaires courantes, retournent à leurs occupations.
Mais on peut dire que pour les cas des maires qui étaient sortants, en principe, quand il n'y a pas encore de passation de charges, on considère que celui qui est le sortant est encore en exercice ou bien on a une mauvaise lecture de cela?
Non, il y a une mauvaise, parce qu'à partir du moment où il n'est plus maire, il n'est plus habilité à prendre des décisions qui vont engager le nouveau maire. Non. Mais les anciennes décisions qui étaient postérieures à son élection, il peut toujours les évacuer en attendant que le nouveau arrive, comme on le voit dans les ministères.
Pour revenir à la délégation spéciale ou une mairie sous tutelle, ceux qui gèrent donc pour cette période-là, avant donc la reprise des élections, quelles sont leurs prérogatives et qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Généralement, c'est des délégations qui vont tourner autour d'une gestion administrative, généralement. Mais les grandes prises de décision, les grandes orientations de la politique générale de la mairie, on va attendre effectivement que le maire arrive. Mais en attendant, il y aura forcément des dépenses à évacuer, des représentations à faire, des mariages à célébrer. C'est surtout le volet administratif qui va être mis en avant, et non le volet politique qui est à la charge ici de l'élu.
Donc ça n'a rien de politique, hein,
vous... Non, juste peut-être signer, peut-être signer les émoulements, évacuer certaines, par exemple au niveau des actes d'état civil, ou bien qu'il y ait certaines signatures. Voilà, c'est plutôt la fonction administrative qui va être mise en avant et non une substitution qui se voudrait également politique. Non, pas du tout. Mm-hmm. Ce n'est pas le rôle de la délégation spéciale. L'avantage de cette procédure, c'est qu'on est sûr qu'elle est ad hoc. Ça va permettre, en attendant que d'autres autorités légitimes viennent. Voilà. Donc les personnes qui sont désignées, vous allez voir, généralement, ils occupent d'autres fonctions et généralement, ils ont hâte de retourner chez eux. Ce n'est pas toujours des fonctions intéressantes.
Voilà, généralement, ce sont les administrateurs qu'on voit, hein, justement.
Oui, c'est ça. C'est ça, effectivement, qui vont laisser leur confortable bureau pour aller gérer les affaires courantes dans les mairies. Généralement, on n'est pas toujours à l'aise dans ce genre de mission-là. Donc ne vous en faites pas. Eux-mêmes, ils sont pressés pour partir. Donc on attend que les élections-là se passent rapidement pour que chacun retrouve effectivement son bureau et puis ses compétences. Ce n'est pas facile de remplacer un maire aussi.
Merci à vous, docteur Moussou.
Docteur Landry Amoussou, enseignant en droit administratif à l'université Péléforogon Koulibaly de Korogo, interrogé par Jean-Claude Comé. Ceci marque la fin de cette édition. Le rappel de l'essentiel. À signaler que Kandia Camara est désormais la nouvelle présidente du Sénat. Elle a été élue à la majorité absolue avec 91 voix sur 97 ce jeudi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Plus en détail, Esport Football Cannes 2023. Les 24 nations connaîtront leurs adversaires ce soir à 19h au cours du tirage au sort qui aura lieu au Parc des Expositions d'Abidjan. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. L'info revient à 15h. Mais avant, la revue de presse de Jean-Claude Comé. Excellent après-midi à tous.
La fréquence de la paix. Yo, Messey. Oh, la dame, Monsieur. Yaga, yo. Yes, up the fire, could never stop at the wire. Yo, Messey. La paix ensemble, c'est possible maintenant. L'amour, le pardon, nous le devons à nos enfants. Les erreurs du passé, il y a tellement de bonnes choses à partager. La paix ensemble, c'est possible. Oh, 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 oh. La paix ensemble, maintenant. Oh, yeah. Yo, Messey, la fréquence de la paix. Yo, Messey. Oh, la dame, Monsieur Yaga, yo. Could never stop at the wire. Let me say, la paix ensemble, c'est possible maintenant. L'amour, le pardon, nous le devons à nos enfants. Nous allons effacer les erreurs du passé. Il y a tellement de bonnes choses à partager. La paix ensemble, c'est possible.
Versailles.
Bonjour à tous. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, va vivre aujourd'hui un événement parlementaire haut en couleur, à savoir